Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarca. Le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Même qu'on est imbattable. Ce documentaire au nom tellement éloquent est celui qui m'a permis personnellement d'ouvrir les yeux sur les violences éducatives ordinaires en découvrant un pays dans lequel elles ont été interdites depuis plus de 40 ans. La Suède. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir la réalisatrice de ce documentaire, Marion Quirk, qui a pu nous ramener toutes ses connaissances sur la société suédoise, sur le modèle suédois, qui, avec ses qualités, ses avantages et ses inconvénients, peut nous permettre de nous inspirer pour avancer nous aussi sur notre parentalité, grâce à ce modèle qui est quand même bien plus avancé que nous sur les violences éducatives ordinaires et qui est reconnu comme étant le plus paritaire du monde. Je vais maintenant laisser la place à ma fille, qui va nous donner le top départ pour cette interview.
Oui, c'est parti.
Bonjour Marion.
Salut Cédric.
C'est un réel plaisir pour moi de te recevoir. J'ai déjà exprimé à quel point ton travail dans ton documentaire, même qu'on est imbattable, avait été important dans mon cheminement personnel de parent. Et donc je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Tu as déjà eu l'occasion de présenter ton travail dans différents médias. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se poser d'autres questions sur la société suédoise, la société française, sur nos habitudes. Et c'est trouver aussi des solutions pour les parents qui peuvent nous écouter. Je voudrais commencer par un premier point, car nous sommes en plein confinement de coronavirus. Et on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux des images, des panneaux, des photos d'enfants qui sont attachés, bâillonnés. Et ma question, c'est quel est ton ressenti à toi en voyant ces photos et qu'est-ce qu'on peut en dire?
C'est une question hyper intéressante et en même temps hyper complexe parce qu'effectivement, comme tu le dis, confinement oblige, les gens s'ennuient. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font encore plus de panneaux Facebook, il y en a toute l'année, hein, mais Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux où évidemment les enfants sont... Ouais, les enfants sont pas forcément glorifiés, quoi. Moi, ces panneaux, je trouve qu'il y a deux... j'en ai parlé récemment sur mon Instagram, justement, en faisant un post, parce que j'avais vu quand même un panneau particulièrement violent, avec vraiment des insultes, enfin bon, c'était humour très noir, très trash, et en disant, comment on peut banaliser ça, alors que la violence sur les enfants, c'est quand même un fléau terrible. Et on m'a beaucoup dit, oui, mais enfin bon, c'est de l'humour, faut savoir rigoler, tout ça, on peut pas rire avec tout le monde. Et j'ai envie de dire aux gens, oui, totalement, moi j'adore l'humour noir. Je suis très sarcastique, je suis beaucoup dans l'humour noir. Mais ça me fait pas rire. Pourquoi ça me fait pas rire? Parce qu'on est en France. C'est-à-dire que quand je vois des Suédois qui s'amusent à pas des panneaux aussi violents qui rentrent dans une violence physique et de l'insulte trash, tout ça, mais quand je vois des Suédois qui s'amusent à poster des trucs parce qu'effectivement, ils ont un humour noir envers leurs enfants ou quoi, je rigole. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça hilarant même. Mais quand je le vois en France, ça me fait pas rire. Pourquoi ça me fait pas rire en France? Parce qu'en France, la violence sur les enfants, c'est vraiment un sujet de santé publique qui est totalement tabouisé, quoi. On n'en parle pas, on en parle peu. Là, il y a le confinement, donc forcément, on s'est rendu compte que les violences conjugales, elles font un boom monumental, quoi. Mais les violences envers les enfants aussi. Alors, on commence un petit peu à en parler. Là, j'ai vu qu'ils avaient relancé une vieille campagne, pas si vieille que ça, ça fait à peine quelques années qu'elle était sortie, du 119, où justement, là, il l'a repassé à la télé pour les enfants maltraités. Mais c'est tellement trop fragile. Je veux dire, en France, les enfants sont, je le dis souvent, ils sont plus victimes de violences que les femmes. Ça n'en parle pas. Donc on a une espèce de d'omerta sociale mais monumentale autour de la violence envers les enfants. Les enfants sont présentés constamment comme des tyrans, comme des potentiels dangers, alors que c'est eux qui sont en danger. C'est eux les victimes. Et tant que ça on le verra pas au niveau social et au niveau collectif, je rigolerai pas de ces panneaux. Parce que du coup ces panneaux, ils en font sur quelque chose de déjà tellement banalisé et tellement tabouisé même, hein. Je sais pas si c'est un verbe qui existe, s'il n'existe pas, je l'invente, mais ça en devient presque pathologique, quoi. On rigole de quelque chose qui est un réel problème de société, en fait, aujourd'hui. Enfin, on rigole d'un enfant qui se fait insulter, qui se fait frapper, Alors qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants, si c'est pas plus, actuellement en France, qui se font taper et qui se font insulter et qui se font abuser. Et donc c'est pas drôle, puisque c'est pas de l'imagination, en fait. C'est la réalité telle qu'on l'a aujourd'hui, maintenant, mais qu'on peut pas la voir. Donc pour ces raisons-là, les panneaux en France, les panneaux diffusés en France et en français ne me font pas rire, parce que c'est pas de l'humour, c'est la réalité. Alors que voilà, quand un Suédois qui est totalement au courant de son rôle, qui est de la société, voilà, est bien à l'endroit à ce niveau-là et tout ça, parce que des fois c'est un petit peu compliqué, parce que des fois on aimerait bien un peu souffler, et du coup on va se faire un petit humour noir sur les enfants, parce que c'est plutôt, voilà, ça détend, quoi. Ça restera que de l'humour, ça va pas être la réalité de milliers d'enfants autour, et on est tous au courant, et on est tous communs sur la base et le socle, en fait. Et là, ouais, là c'est drôle. Donc, pas de souci, en France, évoluons sur le sujet, voyons ce que c'est que la violence sur les enfants, arrêtons d'en faire une omerta, arrêtons de voir les enfants comme les coupables alors qu'ils sont les victimes, et après je rigolerai. Ouais, après on pourra bien se marrer ensemble.
Eh bien, je veux te dire, il me tarde de pouvoir me marrer avec toi. Il y a d'autres panneaux humoristiques qui circulent, avec notamment le rôle qui est inversé, où on voit les parents bâillonnés attachés et les enfants qui sont tortionnaires. Ce genre d'humour-là, pour le coup, toi, ça t'inspire quoi ?
Mais tu vois, c'est un peu moins trash, à mon sens, quand c'est les enfants qui ligotent les parents, quoi. Mais ça reste quand même, voilà, c'est symptomatique de notre société, de cette relation de pouvoir, de domination, entre l'enfant et l'adulte. C'est tellement énorme dans notre société, les problèmes de pouvoir et d'écrasement de l'autre, et surtout des enfants, que franchement, honnêtement, j'arrive pas à en rire. Enfin, je n'arrive pas à en rire, puisque je vais voir ce panneau-là, puis je vais sortir. Bon, là, je vais pas sortir en l'occurrence parce que je suis confinée, mais habituellement, on va sortir dans la rue, on va sortir dans un magasin, et on va le voir en direct live, des parents qui s'en prennent à leurs enfants, qui les insultent, des fois qui les frappent, qui les menacent. C'est la réalité des enfants français, en fait. Hein. Alors, évidemment, pas de les ligoter, hein, ce genre de choses, parce qu'évidemment, on est généralement plus soft dans les violences, mais c'est pas drôle, on rigole de quelque chose qui a même pas un fond de vérité, qui a toute la vérité, quoi. Et ça me dérange. Donc que ça soit les enfants, que ça soit les parents, ça reste quand même cette idée de domination, de pouvoir dans l'éducation qui est martelée, c'est déjà tellement martelé, c'est martelé partout, c'est martelé à la télé, c'est dans les films, dans la télé-réalité, dans les pubs, dans les livres. On a besoin d'autre chose pour avancer. Donc, encore une fois, ça me fera rire en Suède, mais ça me fera pas rire en France.
Et oui, bien sûr, on n'est pas du tout dans le même contexte. Il faudrait qu'on arrive à sortir de ce modèle où on pense que l'enfant, si on le laisse faire, il va nous dominer et qu'on est vraiment dans une lutte de pouvoir à chaque instant. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une espèce de lien de confiance qui est très différent en France et en Suède avec les enfants. Et ça me fait penser à une scène dans ton documentaire où on voit des enfants jouant en liberté, avec une certaine distance des parents qui les regardent et qui les laissent monter sur les toits, utiliser des outils pointus. En échangeant avec des amis, certains m'ont dit qu'eux, ils voyaient ça comme du laxisme. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un rapport différent à l'enfant et à la confiance qu'on lui donne. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire, s'il te plaît ?
Ouais, totalement. Ah non, bah c'est sûr que quand... oui, c'est sûr. Moi aussi, hein, quand j'ai filmé dans le parc, de voir les enfants sur le toit, de voir les enfants en train de toucher des scies à bois, et j'étais pas tranquille. J'étais pas tranquille du tout. Parce que, voilà, moi, j'étais pas comme les parents autour, tranquillement, en train de... Non, non, j'ai aussi ce relent en moi de l'éducation et de l'enfance française, quoi. Mais c'est beau, en fait, de voir que l'on pas. C'est-à-dire que quand on passe au-dessus de cette idée de « Oh, mais ils sont complètement fous !» qu'on peut avoir dans un premier temps, mais si on reste curieux du pourquoi, du comment, plutôt que de se dire qu'ils sont fous et qu'on va voir au-delà, c'est beau. Enfin, moi, je vois que les Suédois, ils ont une relation à la nature qui est très belle, que ce soit les enfants ou les adultes, hein, d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus sportifs que nous, ils sont beaucoup plus proches de la nature, voilà, on a toujours cette idée un peu que les Suédois sont très écolos. Non, ils sont pas tellement écolos. Là-dessus, ils pourraient s'améliorer. Mais par contre, ils sont très proches de la nature et ils sont très proches d'eux-mêmes à travers la nature. Et ça, c'est relativement beau, et pour moi, c'était relativement exotique, d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose que je retrouve dans la même dimension en France. Et pour moi, ça vient de l'enfance. C'est-à-dire que c'est tous ces gens-là qui sont sportifs, qui sont proches des grands espaces verts, ça vient de l'enfance, ça vient de cette idée que quand ils étaient enfants, on les a laissés crapahuter, on les a laissés découvrir, on les a laissés dans cette nature, plutôt que de leur dire « Attention, tu vas tomber !» Qu'est-ce que j'en sais qu'il va tomber ? Il va peut-être pas tomber du tout, quoi. Mais quand on a entendu « Attention, tu vas tomber toute sa vie », en tout cas toute son enfance, et bah du coup quand on est adulte, on est d'une paralysé souvent parce qu'on a peur de tomber quand on fait des choses un petit peu périlleuses, et puis deux, on est paralysé parce qu'on pense que les enfants à leur tour, ils vont aussi tomber. Et on se transmet un peu ça de génération en génération, et c'est très dommage parce que enfin, à la base, on est quand même des animaux, hein, donc je pense que dans la nature, on est tout à fait capable de faire des choses très chouettes, et je l'ai vu, moi, quand j'étais en Suède, les enfants extrêmement agiles qui grimpent partout, le petit, le matin, qui se lève, qui va monter sur le comptoir de la cuisine, qui va ouvrir le placard en haut, qui va récupérer son bol, qui va... Enfin, sur le coup, on a envie de sauter, d'intervenir en disant « Non !» Mais si on le fait pas, en fait, on se rend compte que c'est facteur d'épanouissement aussi, quoi, d'être bien dans son corps, d'être bien... Ouais, parce que c'est tellement lié. Donc, ils sont en meilleure santé, ils sont plus sportifs, ils sont... Enfin, il y a plein de choses, hein, qui sont des éléments de la société forte, qui, à mon sens, ont une corrélation directe avec l'enfance. Et ça, ça en fait partie. Et de voir aussi à quel point ils ont pas cette inquiétude. Le Suédois, j'ai rarement entendu un Suédois dire à son enfant « Fais attention, tu risques de tomber, tu... » Non, au contraire, c'est « Vas-y, tu peux y aller encore plus haut !» Enfin, il y a une espèce de confiance qui, des fois, on est même... Bah ouais, mais ça, c'est leur propre enfance qui se reflète dans l'accueil qu'ils font de l'enfance de leurs enfants, quoi.
Ouais, c'est quand même assez fou pour un Français d'entendre ça.
Ah oui, totalement. Je suis d'accord.
Et j'entends aussi autre chose, c'est qu'apparemment, en Suède, la peur de l'échec n'est pas spécialement développée. Nous, en France, on est quand même dans une société où il ne faut pas échouer. L'important, c'est de ne pas échouer. J'ai quand même l'impression, quand je t'écoute parler, qu'en Suède, c'est plutôt différent. On a plutôt bien acquis le principe que l'échec, c'est avant tout une étape de l'apprentissage.
C'est vrai qu'ils ne sont pas très élitistes. Hein, si on compare à la France, ils sont pas là-dedans, quoi. C'est même plutôt... c'est un peu un gros mot, l'élitisme, là-bas. Après, voilà, il y a des différences culturelles monumentales aussi. Mais ils sont pas dans la compétition, ils sont pas dans qui est le meilleur, bien au contraire, quoi. Hein. Il y a cette idée qu'on est tous égaux, bien qu'on soit tous très différents, et donc du coup on doit respecter tout un chacun dans ses forces comme dans ses faiblesses. Des fois ça peut aller un peu loin quand on a envie de faire des choses et de s'améliorer, et que du coup bah on peut pas parce qu'on entendra toujours qu'on est le meilleur quand même parce qu'on a d'autres forces. Donc c'est pas grave que t'aies cette faiblesse là, mais ouais, mais moi j'ai envie de m'améliorer là-dessus, donc aidez-moi à critiquer. Enfin, moi, je sais que je l'ai en moi, ce truc de... On a l'impression que c'est aussi par la critique qu'on avance mieux, quoi. C'est pas totalement toujours faux non plus. C'est très complexe encore, ces notions-là. Mais en tout cas, c'est pas socialement comme ça qu'ils ont construit l'accompagnement des autres, quoi. Pas que des enfants, d'ailleurs. Hein. C'est pareil, les adultes, c'est exactement pareil là-bas, quoi. Faut se lever tôt le matin pour se faire critiquer. Hein. C'est compliqué, quoi. Ils aiment pas critiquer les autres, quoi.
Non, mais c'est sûr qu'on est quand même loin de ce qu'on peut trouver dans notre pays. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même... On essaye de développer tous ces concepts de motricité libre, de laisser l'enfant jouer comme il l'entend, avec notamment l'arrivée de Montessori et tous les concepts qu'on essaie de développer. Par contre, c'est vrai qu'on a encore du mal à parler de... Ah, je sais pas... En y mettant autant de guillemets que possible, de ce fameux cadre, tu vois.
Mais t'as vu, le mot cadre devient un gros mot. Alors que... Un cadre, c'est... Je sais pas, si tu... t'éteins la lumière. T'es dans une pièce, tu éteins la lumière. Le premier réflexe de n'importe qui, ça va être quoi? Ça va être de mettre les mains devant soi et de chercher les murs. Parce qu'on a besoin de savoir où on est. On a besoin de savoir où on se trouve, dans quel espace. On a besoin de connaître les codes qui nous entourent. C'est ça, le cadre. C'est pas plus que ça. C'est pas... Encore une fois, c'est pas cassant, c'est pas brisant, c'est pas... Mais en France, on l'entend pas, ça. On l'entend pas, et surtout parmi les personnes qui s'intéressent de très près, justement, à l'éducation non-violente, ou comment on a envie de l'appeler, parce que très souvent, ce sont des gens qui ont conscience de ça de par leur propre souffrance d'enfant. Et ayant conscience de ça de par leur propre souffrance d'enfant, ils sont encore beaucoup plus sensibles à ces sujets-là. Donc quand ces personnes-là, souvent, quand on se met à leur parler de cadre, ça part en live, quoi, parce qu'on se comprend pas, en fait, sur le terme de cadre. Mais comme je le dis très souvent, les sociétés nordiques, la Suède, mais les sociétés nordiques en général, sont des sociétés beaucoup plus disciplinées que la France. On est beaucoup plus contestataires. En France, on est beaucoup moins disciplinés que dans les pays nordiques. En règle générale, enfants comme adultes, hein, d'ailleurs beaucoup les adultes aussi, c'est des sociétés où il y a énormément de cadres. C'est des sociétés où les gens sont énormément pour l'autodiscipline, le bien commun. C'est des cultures différentes aussi, hein. Mais c'est pas des sociétés où il y a pas de où il y a pas de, de cadre. C'est pas du tout ça, les sociétés nordiques. Et quiconque pense que c'est ça n'a pas compris ce que c'était que les sociétés nordiques. C'est une façon différente d'amener. Voilà, c'est comme j'en parle souvent, quoi. Mais c'est comme cette idée que bah oui, la règle elle est là, mais la règle elle est là pas pour embêter le monde, pas parce que sinon je suis puni. La règle elle est là pour le bien commun. Elle est là parce que voilà, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, quoi. C'est hyper important ça pour vivre en société. On a besoin de ça. Mais en France, on est tellement matraqué de limites et de cadres violents, abusifs, ce genre de choses, qu'on en oublie que le problème, c'est pas le cadre, c'est la violence du cadre. Et ça je pense qu'il y a pas mal de boulot là-dessus.
Tu parles de l'accompagnement des enfants et des adultes. Et en France, on est quand même sur un développement de l'accompagnement émotionnel des enfants et aussi des parents, souvent. Et on peut trouver des supports dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans des émissions. Mais à ma connaissance, il n'existe pas de support proposé par les services publics, par l'État. J'aimerais savoir comment ce sujet est traité en Suède.
Bah bien différemment. Je pense qu'en France, enfin encore une fois, c'est pas la Suède qui en avance, je pense que c'est la France qui est en retard. Mais on est... Enfin, c'est marrant quand tu dis, voilà, l'accompagnement émotionnel, on découvre ça, enfin, on découvre... Enfin, c'est dingue, nous sommes, nous les êtres humains, des boules d'émotions. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous sommes des boules d'émotions, c'est comme ça, c'est notre nature. Et bah, si on s'amuse à pas vouloir les voir, à les faire taire, à chercher à mettre un couvercle dessus, de toute façon, à un moment, ça va pas le faire. À un moment, ça va exploser quand on va devenir adulte, ça va se traduire par une dépression, un mal-être, enfin, bon, différentes, voilà, ça peut être aussi de la violence hein, chez beaucoup de gens. On est tous différents, on aura tous des façons différentes de l'exprimer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas le faire. Donc, plutôt que de vouloir faire la guerre à nos émotions, on a plutôt quand même intérêt de commencer tôt, très 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 tôt, très tôt, à essayer de les apprivoiser, et à apprendre aux enfants à les apprivoiser. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que les êtres humains, nous sommes des êtres extrêmement complexes. Donc c'est pas quelque chose, voilà, y a pas une recette comme ça de développement émotionnel, et ceux qui disent qu'il y en a... Bah, je pense pas qu'ils puissent, voilà, pour moi, il n'y a pas de recette de façon de relations humaines. Mais en tout cas, notre rôle d'adulte, c'est d'aider les enfants à mener au mieux cette entreprise qui est de partir un petit peu à la découverte de leur vie émotionnelle, de leur vie intérieure, quoi. C'est à ça qu'on sert, en fait, hein. C'est Alice Miller qui disait ça, je crois, justement, que notre rôle d'adulte, c'est vraiment d'aider nos enfants à développer leur vie émotionnelle, quoi. Bien avant tout le reste. Et ça, on le fait pas assez. Alors évidemment, pourquoi on le fait pas? Bon, bah parce que nous-mêmes, souvent, on a absolument pas connaissance de nos émotions. On les fait taire, on les ignore. Et puis un jour, ah bah ça explose. Donc souvent en France, et bah, quand on s'énerve, et bah, on pète un câble. Bon, carrément, il y a pas d'autre terme, quoi. Les gens quand ils s'énervent, c'est souvent violent, quoi. Parce qu'ils ont rien dit pendant un moment, ils ont rien dit, puis d'un coup ça explose, quoi. Donc ça, en Suède, les gens qui explosent, j'en ai très rarement vu, quoi. C'est pas très nordique d'exploser. C'est aussi des différences de culture, hein. Mais concrètement, enfin voilà, plutôt que de vouloir faire la guerre à nos émotions, ouais, de prendre en fait en main notre rôle d'adulte. Donc pour ça, et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, faut aller réparer nos propres émotions, réparer le problème chez nous, parce qu'évidemment, bah, on peut pas donner aux enfants ce qu'on n'a pas eu aussi facilement que ça, hein. C'est très compliqué. Donc c'est à nous de nous remplir remplir ce vide qu'on a en nous pour ensuite pouvoir le transmettre à nos enfants. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Déjà que c'est compliqué, ça l'est encore plus quand ça n'a pas été fait, quoi. Pour ça, hein, je sais plus qui dit ça, qui disait vaut mieux construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Parce que ouais, une fois qu'on est brisé, c'est compliqué. Mais on n'a pas le choix. Parce que les enfants, ils ont que nous. Donc si on le fait pas, on va se le transmettre de génération en génération et ça s'arrêtera pas. Et ça s'arrête déjà pas, mais ça s'arrêtera pas, quoi.
Tu parles de réparer le problème. Ça me rappelle un sujet que tu as évoqué, notamment dans ton TEDx, qui s'appelle « De l'enfant roi à l'enfant en moi ». Et rencontrer cet enfant intérieur, ça semble être un sujet qui est essentiel pour faire son chemin de parent. En tout cas, ça l'a été pour moi, notamment sur les VO. D'où ma question, c'est comment le traitement de notre propre enfance peut nous aider sur le chemin de notre parentalité ?
C'est sûr que c'est très important, puisque bah, si tu pars du principe, si tu t'imagines que tu as un enfant en toi, et qu'il est un petit peu tout égratigné, tout cassé, tout voilà triste, bah forcément en tant que lui il ira pas bien, cet enfant que t'as en toi, ça va être compliqué du coup de faire en sorte que l'enfant en face de toi il aille bien, parce qu'à un moment donné ces deux enfants ils vont se crêper le chignon, quoi. Ton enfant en toi qui souffre et qui va pas bien, il va pas supporter que l'enfant en face de toi il pète le feu, quoi. va y avoir de la jalousie qui va se créer avec cet enfant. Il y a plein de choses, en fait. Ça, c'est des concepts qui sont assez compliqués, à la fois assez, effectivement, qui intéressent beaucoup les gens et qui sont aussi très individuels, parce qu'on n'a pas tous la même manière d'aborder la chose, quoi. Mais c'est primordial. Enfin, c'est, encore une fois, nous, on donne à nos enfants ce qu'on a eu. Alors, quand on a eu une enfance pleine d'amour, de logique, de choses sécurisantes, on va le donner comme ça. Ça va, enfin, faut voir les Suédois, hein, qui éduquent leurs enfants pour beaucoup, sans se poser de questions, quoi, hein. C'est naturel, c'est comme ça, c'est très chouette d'être parent, et voilà. Des fois, c'est compliqué aussi, mais c'est très chouette et c'est relativement instinctif. C'est compliqué de suivre l'instinct quand l'instinct il est faussé. Et l'instinct de beaucoup de gens en France est faussé, puisqu'on a été beaucoup construit sur les propres souffrances des adultes qui nous entouraient. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est qu'on refile tout un bagage à nos enfants qui leur appartient pas. Et ça, pour moi, c'est déchirant de voir ça. Ça fait mal au cœur, quoi, de se dire, bah, les enfants qui eux vont le prendre en plus, hein. Le bagage là qu'on va leur donner qui leur appartient pas, ils vont le prendre, parce que les enfants, ils ont une telle loyauté envers leurs parents que du coup ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre pour eux. Ils vont s'accuser. Ils vont peut-être même inconsciemment vouloir devenir les parents de leurs parents pour sauver leurs parents. Enfin, ça peut aller très très loin psychologiquement dans les relations, quoi. Et c'est pas facile, c'est pas de la maltraitance comme ça, caractérisée avec un bras cassé, un œil au beurre noir. Mais c'est pas sain pour le développement, c'est brisant, c'est cassant, de 36 manières différentes. Et du coup, bah, en étant encore une fois conscient et honnête avec nous-mêmes que on a des failles, hein, clairement. On en a peut-être même plus que certains qui ont pas eu les mêmes problèmes. Mais en étant conscient de ça, et ben déjà on permet à nos enfants de pas prendre cette responsabilité qui leur appartient pas. Et nous, essayer avec nos façons de faire, nos moyens, en se nourrissant un maximum, en essayant, voilà, on est différents, on aura tous des chemins différents là-dessus, mais au moins on sait qu'il faut aller réparer déjà notre propre enfance, quoi. Et ça, c'est triste, hein. Franchement, c'est super triste. On devrait franchement avoir autre chose à faire en tant qu'adulte que d'aller réparer notre enfance, quoi. Enfin, on a d'autres chats à fouetter, très, très, très clairement, quoi. Mais pour beaucoup de gens, il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix, parce que quand ils vont se retrouver face à cet enfant, leur enfance, elle va leur exploser à la figure, quoi. Et ça, on s'y attend pas, généralement, mais c'est comme ça, voilà. Moi, j'invite les gens qui n'ont pas lu Alice Miller, et ben, allez lire Alice Miller, quoi. C'est la base. Je pense que là-dessus, tu seras d'accord. Et ça c'est compliqué, c'est difficile. Ouais, ça fait mal d'aller triturer la blessure, quoi. Mais après, cette blessure, elle peut cicatriser, et peut cicatriser pour de bon, quoi.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut cicatriser de ces blessures-là. Moi, à titre personnel, je sais que ça m'a aidé à comprendre pas mal de choses, d'essayer d'avoir une vue globale, une vue d'ensemble. Mais c'est vrai que réussir à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là avec nos parents pendant notre enfance, ça peut en effet certainement aider.
Je réagis quand même là-dessus, parce que ça aussi, je trouve que c'est hyper individuel. Tu vois, je trouve qu'on dit beaucoup aux gens, ouais, le pardon et tout. Pourquoi pas? Enfin, si toi, bah, t'as avancé là-dessus, t'as vu ce que tes parents ont fait avec les moyens du bord qu'ils avaient à l'époque, et bah, tu me dis, voilà, ça m'a permis de voir leur point de vue, de leur pardonner. Bah, si ça te convient, tu vois, si ça te convient vraiment avec ton cœur et tes tripes et pas avec ta tête, il n'y a pas de souci, c'est très chouette, tu vois, c'est très chouette, parce que du coup, bah, tu vas pouvoir, toi, faire ton chemin, et du coup, ta fille, elle aura bien des difficultés en moins. Mais il y a des gens aussi, tu vois, moi j'ai beaucoup de gens, hein, qui viennent me dire des fois, j'arrive pas à pardonner, quoi, je peux pas. Mais pourtant, j'ai lu qu'il fallait pardonner. Encore une fois, si on n'a pas ce besoin, cette envie de le faire, ou si ça sonne pas juste en nous, bah pourquoi pas. Alice Miller, elle le disait très bien, hein, le pardon, c'est pas une obligation. D'ailleurs, ça lui a valu bien des tempêtes et vents et marées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui clairement étaient pas d'accord avec elle. C'était dérangeant de le dire, mais elle avait raison de le dire. On n'est pas obligé de pardonner, quoi. Ça dépend aussi, ça dépend d'énormément de facteurs, et surtout, ça appartient à tout un chacun. Donc, c'est pour ça que je te dis, on est tous différents. T'as des gens, ils vont dire, bah moi j'ai besoin de comprendre pourquoi mes parents ont fait ça, et j'ai besoin de renouer la relation. T'as des gens, ils vont dire, bah moi j'ai besoin de comprendre ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai ressenti, et ensuite je fais mon chemin. On est tous totalement pluriels et différents, quoi. Et tout est possible. Donc les gens qui sentent que moi j'ai besoin de pardonner, je veux, voilà, bah faites-le. Mais faites-le pas par mon parent voudrait que je pardonne, ou alors c'est normal de pardonner, la société veut que je pardonne. Non, faites-le parce que c'est vraiment ce qu'il y a au fond de vous, quoi. Ou vraiment au fond de vous. Et du coup, faut aller voir ce qu'il y a au fond de vous. Faut enlever toutes les couches. Du coup, ça prend un peu de temps. Mais les gens qui disent, moi je peux pas. Moi je veux pas. Moi je suis en colère. Je veux pas de ça. C'est un autre cheminement, mais c'est pas un cheminement qui est plus problématique. C'est un cheminement différent. C'est un cheminement autre. C'est pas parce que les autres font pas comme nous qu'ils ont tort, quoi.
Et en effet, il appartient à chacune et chacun de trouver son chemin.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quand on se parle de violence, on peut aussi parler de la violence éducative qu'on va observer. Je t'en parle parce que c'est un sujet qui revient quand même souvent dans les discussions sur les réseaux, avec les parents que je peux côtoyer. Il y a toujours de très vives émotions, de témoignages de parents qui ont assisté à une scène de violence et qui ne savent pas forcément comment réagir. Certes, nous avons une loi, mais les structures aujourd'hui ne sont pas forcément très accompagnantes. En tout cas, quand on est témoin de violence comme ça, dans la rue, au supermarché, peu importe, comment est-ce qu'on peut réagir ?
Déjà, c'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs angles là-dedans, en fait. Il y a les gens qui n'osent pas réagir parce que quand un enfant est violenté, ça va réveiller en eux leur propre souffrance d'enfant. Et ils auront l'impression de nouveau d'avoir 4-5 ans et de plus du tout savoir quoi faire. Parce que du coup, ils vont avoir peur de s'en prendre une, en fait, hein, concrètement. Donc ça réveille plein de choses de leur propre enfance et ils sont figés et ils n'y arrivent pas et ils n'interviennent pas. Il y a les gens qui vont se dire « Ouais, je suis contre, mais ça ne me regarde pas. C'est pas mon enfant, je suis pas au courant de ce qui se passe, donc je fais rien. » Il y a les gens qui vont se dire « Ouais, c'est vrai que c'est pas chouette, c'est pas cool, mais je vais pas aller taper sur le parent parce que la culpabilité, ça suffit. » Donc il y a beaucoup de choses, en fait, qui font qu'on va pas intervenir, quoi. Moi, je pense, je le dis toujours, et il faut intervenir. Parce qu'encore une fois, tant qu'on n'amènera pas ça sur un sujet de société, autant qu'on essaye de le faire avec les femmes, on aura du mal à aller à l'étape suivante, quoi. Donc il y a 36 façons d'intervenir. Il y a les gens peut-être un peu plus qui vont oser, qui vont aller clairement dire ce qu'ils en pensent. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, j'en fais pas partie. J'aime pas les conflits, j'aime pas les clashs. J'ai vécu en Suède pendant des années, donc... J'étais entourée de gens qui ne se crient pas dessus et j'aime pas spécialement le conflit à la française, donc je suis pas le genre à aller dire aux parents ce que j'en pense de façon non filtrée. Et généralement, moi je m'adresse à l'enfant, généralement. Dans la plupart des cas, quand je peux, je m'adresse à l'enfant. Donc ça va être beaucoup de l'anticipation. Si l'enfant il saute dans tous les sens, que le parent il est en train de péter un câble, ça va être de dire à l'enfant « Bah oui, dis donc, t'es fatigué, t'as passé une dure journée, c'est pas facile d'attendre ». Quelque chose comme ça, quoi. Généralement, ça crée un lien avec le parent. Du coup, le parent se sent moins jugé, il se sent compris. Et ensuite, quand il y a un lien, après, on peut discuter, quoi. Mais des fois, l'enfant est trop petit, donc des fois, on peut pas. Je me souviens une fois dans un train, je voyais une scène très particulière. Ça, je voyais une très très jeune maman. Je pense qu'elle avait vraiment, elle devait avoir une vingtaine d'années, mais vraiment, ouais, pas plus ou 20-22 ans. Elle était avec sa petite, extrêmement douce, extrêmement gentille, elle lui caressait les cheveux, enfin, elle la bouffait des yeux, clairement, hein, sa fille. Et puis comme ça, subitement, venue de on sait pas où, brutalement, elle la prenait, elle l'asseyait violemment sur le siège, « T'arrêtes de bouger !» Elle lui mettait une claque sur la main, et 3 secondes plus tard, elle redevenait la maman miel, enfin, c'était très surprenant comme scène, quoi. Et à un moment, je suis allée la voir, quoi. Et je lui dis « Excusez-moi, vous savez... votre petite fille, elle dérange pas du tout. Hein. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais c'est 7h du matin, les gens, ils sont dans le train, ils dorment, elle peut pas faire de bruit. Je dis, oui, mais elle a quel âge, votre puce, là ? Bah, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, on va passer 3 heures dans le train. Donc, à un moment donné, c'est pas forcément très réaliste de penser que cet enfant peut rester 3 heures sur son siège. Je dis, votre fille, elle fait déjà pas beaucoup de bruit, quoi. Hein. Je lui ai dit, faut pas vous inquiéter, c'est normal, elle est petite, les gens, ils comprennent. Oui, mais si, les gens, ils comprennent pas. Je dis, c'est pas grave, si les gens ils comprennent pas, moi j'irai leur parler, quoi. Mais vous inquiétez pas, vous occupez-vous de votre fille. Elle n'a pas les capacités encore à son âge de rester assise sur son siège sans bouger, c'est pas possible, quoi. Et elle était très très jeune, cette maman, quoi. Donc je pense qu'aussi elle n'avait pas les, voilà, elle n'avait pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là, quoi. Mais c'est important, en fait, parce que plus on intervient, plus on ne laisse pas faire les choses, même si on le fait gentiment, comme ça, plus on dessine une nouvelle norme de société aussi, quoi. C'est important. Enfin, moi, je sais que le peu de fois où je ne suis pas intervenue, et c'est arrivé des fois, j'y ai pensé pendant des mois après. Et le parent, qui est l'objet de mes pensées, il ne me connaît même pas, il ne sait pas qui je suis, il ne sait pas à quoi je pense. Enfin, je veux dire, il n'y a que moi qui suis embêtée dans l'histoire, quoi, finalement. Et l'enfant, il n'a pas été aidé. Enfin, voilà, donc il y a toujours possibilité d'intervenir. Et ensuite, la dernière façon d'intervenir pour les gens qui vraiment n'osent pas du tout, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, c'est d'aller voir le parent et lui dire, lui parler totalement d'autre chose, quoi. Excusez-moi, vous savez où se trouve la rue, machin, la rue truc, ou alors de demander l'heure. Excusez-moi, il est quelle heure ? Voilà, de jouer un peu la personne pas très fut-fute, quoi. Et ça coupe la violence du parent envers l'enfant, et du coup, ça permet généralement de dévier la chose, quoi. Mais faut pas hésiter à intervenir. On est tous responsables des enfants, quoi. Faut l'amener doucement dans la société, mais faut l'amener, parce que si on l'amène pas, on y sera encore dans 10 ans. Hein.
Oui, c'est sûr. Faut espérer qu'on avance un peu plus vite. Mais bon, l'essentiel, c'est d'intervenir. Peu importe comment on fait. En tout cas, ce qui est sûr, enfin, de ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend vraiment du contexte, quoi. Il n'y a pas de formule magique pour intervenir.
Mais faut amener ce qu'on est, en fait. Faut amener ce qu'on est. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont intervenir, qui vont tout de suite aller voir le parent, qui vont voilà tout de suite envelopper le parent d'un cadre aussi, hein, parce que c'est aussi un cadre sécurisant que du coup d'aller avec empathie dire non. Il y en a, ils vont aller voir l'enfant. Il y en a, ils vont peut-être plus parler de ce qu'eux ressentent. Mais moi, de voir ça, ça me met mal à l'aise parce que moi, j'ai subi des violences dans mon enfance. Ça pourrait être de dire ça aussi, hein, parce que c'est ce qui se passe en fait. Les gens, ils sont mal à l'aise parce que ça leur rappelle des choses. On peut dire ça aussi aux gens, on peut dire, mais moi, quand j'étais enfant, j'ai subi des choses, et de voir ça, là, ça va être très très difficile, quoi. On ressent sur soi. En fait, on y amène ce qu'on veut, on intervient comme on veut, on peut pas tous intervenir de la même manière, faut juste intervenir.
Alors, dans Papatriarcat, on se parle aussi de relations hommes-femmes, d'égalité, de charge mentale, de répartition des rôles et de genre. Pour le coup, en Suède, comment ça se passe ? Est-ce qu'on est sur quelque chose de très patriarcal ? Alors, je vais te dresser un tableau très grossier à dessin. Est-ce qu'on est sur l'homme qui regarde la télé en buvant sa bière, pendant que sa femme fait la cuisine, le ménage et s'occupe des gosses avec une charge mentale fois 10 000 ? Ou est-ce qu'on est sur complètement autre chose ?
On est clairement sur autre chose. Après, c'est assez marrant, parce que si tu demandes aux Suédois, ils vont te dire qu'ils ont énormément de choses à faire en termes de parité, énormément de choses à apprendre, qu'ils n'ont pas compris grand-chose. C'est aussi très nordique. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on veut toujours mieux. Les Nordiques ont une tendance à ne pas forcément voir tous les trésors relationnels qu'ils ont dans leur société parce qu'ils sont nés avec. Ce qui est un petit peu embêtant d'ailleurs quand on n'est pas de là-bas et que nous, on admire et que voilà. Donc, je dirais que vu de France, ça, c'est super, c'est des papas qui s'occupent de leurs enfants tout autant que les mamans. D'ailleurs, le congé parental, c'est pas le congé maternité, c'est le congé parental, qui est très long et qui est tout à fait scindable en deux par les parents au même nombre de mois, quoi. Donc ça, c'est quand même déjà une grande avancée. Et puis c'est viril en Suède, c'est viril de s'occuper de ses enfants. C'est-à-dire que le papa qui va pas prendre son congé paternité, enfin parental, et ben voilà, il risque au boulot, on va lui dire, c'est bizarre quoi, pourquoi tu prends pas ton congé parental, enfin t'es devenu papa, tout ça, c'est ta responsabilité de papa. Donc c'est presque l'inverse en fait, il faut prendre son congé parental en tant que papa, parce que sinon c'est pas viril quoi. Donc il y a d'autres codes encore une fois. Après c'est hyper différent, enfin c'est-à-dire qu'il est absolument pas rare en Suède de voir des petits garçons de 3, 4, 5 ans aller à l'école en robe, avec du vernis à ongles, enfin, c'est totalement banal, c'est 90% des Suédois vont trouver ça bien. Donc on est vraiment sur un tout autre niveau au niveau du genre. Après voilà, il y a aussi des gens qui trouvent que ça va trop loin, il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez loin, donc il y a tout un débat aussi là-dessus. Mais si on compare à la France, ça n'a rien à voir. Moi, je sais que je suis partie à 19 ans en Suède, donc je suis devenue adulte en Suède, pas en France. Et quand je suis revenue en France, passé 25 ans pour le film et pour d'autres choses, j'ai un petit peu halluciné, parce qu'en fait, ce que je pensais tout à fait normal, finalement, de me balader dans la rue et d'être tranquille, quelque chose de banal, hein, mais Bah, je me suis rendu compte qu'en fait, en France, eh ben non, ça se passait pas comme ça. Donc, pour la première fois, j'ai eu des hommes qui me sifflaient, qui m'abordaient, ça ne m'était jamais arrivé à Stockholm, jamais. J'avais jamais vu ça. Et j'ai eu un peu cette impression d'un coup je sais pas, d'être un morceau de viande, des fois, qui était en train de se balader dans la rue. C'était très particulier pour moi parce que j'avais absolument pas connu ça là-bas. Pourtant, je suis française, hein. Mais je suis devenue adulte en Suède. Et donc, du coup, je pense que ça m'a amené aussi d'autres codes, quoi. Et il y a d'autres codes dans les relations hommes-femmes. Ils sont très différents. Après, c'est pas mon sujet, mais c'est ce que je peux en dire, quoi.
Alors, sur ce sujet-là, on peut revenir aussi un petit peu plus sur les enfants. Dans mon épisode sur les étiquettes, j'évoque les étiquettes de genre, avec notamment le fait de rapidement coller des étiquettes sages ou douces aux filles et colériques au casse-cou aux garçons. Qu'as-tu observé en Suède sur ce sujet, s'il te plaît? Et pour aller plus loin, le modèle suédois impose-t-il des différences de genre aux enfants comme en France? Par exemple, y a-t-il des jouets pour filles et d'autres pour garçons? Bon, y a deux questions dans ma question, mais voilà.
Je te demanderai sûrement de me la reposer après, mais je vais commencer par la première. Les étiquettes, c'est un sujet que je trouve extrêmement complexe. Parce qu'effectivement, on est tous d'accord là-dessus. La façon qu'on a en France de coller des étiquettes tout le temps sur les enfants, il est comme si, il est comme ça, de parler de lui alors qu'il est juste à côté de nous, comme s'il n'était pas là, ce genre de choses. Non, ce genre de choses, c'est pas respectueux, c'est à changer, il faut évoluer. Encore une fois, ça n'est jamais que la suite de notre vision très délétère de l'enfant. C'est qu'une branche, hein, c'est qu'une branche de cet arbre-là. Pour autant, je pense que tous les êtres humains, on a tendance à dire, ah ben, un tel, il est comme ci, un tel, il est comme ça. Je pense que c'est très humain de vouloir mettre les gens dans une catégorie à un moment donné pour savoir avec qui on parle, avec qui on, voilà, quelle est cette personne que j'ai en face de moi. Donc, je pense que c'est quelque part aussi normal. Un tel, là, là, il est passionné de ça, lui, bah, il est comme ci, il est comme ça. Je pense que c'est très humain. Et je pense que de s'empêcher à tout prix de le faire, du coup, ça va contre notre naturel d'humain, et c'est pas forcément extrêmement positif. Mais il faut faire attention à comment on le fait. Il faut pas que ça rentre, voilà, faut pas que ça rentre dans cette espèce d'abus des étiquettes, comme on l'a vraiment avec les enfants, et des fois c'est beaucoup trop, quoi. Mais je pense encore une fois, enfin comme je te le disais déjà, pour moi les relations humaines, elles sont pas foncièrement dans les livres. Ça peut nous aider, ça peut nous nourrir, ça peut. Mais à un moment donné, on peut pas aussi, je pense. C'est compliqué de s'empêcher ou de réfléchir à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche à ce qu'on va dire pour pas dire un truc de travers. Je pense que c'est une position, c'est une posture, c'est une démarche qu'on a, c'est une façon de penser les choses qui du coup va refléter nos actions et nos dires. Mais je pense que quand on commence à s'empêcher à dire des choses, parce que oh là là, j'ai dit qu'il fallait surtout pas dire ça, et que c'est tout, on s'empêche ça, mais après tout le reste, par contre, c'est pas du tout cohérent, quoi. On est dans une. Voilà, on met un tout petit pansement sur une blessure où il y aurait besoin de points de suture, quoi. Ça peut pas trop tenir dans le temps, je pense, quoi. Mais c'est très intéressant, par contre, de se poser la question, de se dire ben comment moi je voilà comment mes enfants je les vois, comment je les traite, qu'est-ce que je pense d'eux, qu'est-ce que ça dit de moi que je dise ça d'eux. Ça, ouais, carrément, ça, il faut. Mais quand j'entends des gens qui me disent pas forcément du genre, hein, mais qui me disent oh là là. J'adorais dire à mes enfants que c'était des petits monstres. Maintenant, je ne le dis plus jamais. Je m'empêche ça parce que voilà, je trouve ça. Ça m'arrive de donner des surnoms aux enfants. J'adore ça. D'ailleurs, je ne donne pas des surnoms aux enfants. Je donne des surnoms à tous les gens que j'aime. C'est moi, c'est ma personnalité, c'est ma façon de montrer aux gens que j'ai de l'affection pour eux. Ça me ressemble, ça me correspond. C'est fait avec tout l'amour, tout le respect, tout le recul que je peux avoir, ça convient aux gens, évidemment, hein, sinon, évidemment, je le ferais pas. Et c'est moi, et j'ai pas envie de pas le faire, en fait. Et si un livre me disait, bah oui, mais non, là, tu peux pas dire ça, parce que du coup, si tu fais ça, c'est une violence éducative, c'est plus complexe que ça, c'est plus difficile que ça, et encore une fois, la réponse, elle est d'abord en nous, avant d'être dans les livres. La deuxième question, tu vois, je l'ai déjà.
Oui, alors juste avant de revenir sur la deuxième question, je voudrais rester un petit peu sur les étiquettes, parce que ce que j'entends aussi dans ton discours, et ce qui est rassurant pour les parents qui nous écoutent, c'est que oui, on peut être en conscience et savoir ce qui se passe dans la tête de notre enfant, mais on doit aussi respecter qui on est, rester soi-même, et aussi être indulgent avec soi-même. Après, cela dit, on reste en France et on a quand même des habitudes de langage qui sont assez nocives. Et ça peut être intéressant de prendre du recul sur ce qu'on va dire et de prendre du recul sur les conséquences que ça peut avoir.
Ah mais en France, beaucoup, évidemment. Non, bah c'est sûr, quand on voit des fois comment les gens traitent les enfants, c'est sûr qu'ils ne traiteraient même pas leurs animaux comme ça. Donc, non, mais c'est sûr qu'il y a un recul énorme à prendre. Mais je pense aussi que l'extrême inverse, qui va être de tomber dans une robotisation de toutes nos pensées, de tous nos termes et de tout, c'est pas mieux. C'est différent. C'est une autre façon d'être déprogrammé dans la relation humaine, mais c'est une déprogrammation quand même de la relation humaine, quoi. Et personnellement, pour être quelqu'un qui est assez spontané, assez voilà, qui j'aime pas trop me prendre la tête avec les bouquins de développement personnel trop. En tout cas, ils s'invitent pas dans mon quotidien, dans mes relations. Voilà, je n'ouvre pas mon livre en plein milieu de la conversation, quoi. Enfin, moi, ça me conviendrait pas, quoi. Moi, je voudrais pas, ça m'irait pas, ça. C'est... Après, voilà, ça dépend. Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin de beaucoup, voilà, de plus de cadre, de plus de. On est, encore une fois, on est tellement différents, quoi. C'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas la réponse, quoi. Il n'y a pas le. Mais se poser la question de pourquoi, de la posture, de. Mais je pense très sincèrement que c'est très humain de vouloir savoir quel est le type de personne qu'on a en face de nous, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Ouais, ça dépend comment c'est fait, quoi, encore une fois. C'est là toute la complexité des choses, hein. C'est que c'est pas simple, quoi.
Et encore plus avec les enfants. C'est vrai que c'est une grande complexité dans le rôle de parent pour le coup, parce que notre job, mine de rien, c'est d'aider notre enfant, de l'élever pour qu'il soit la meilleure version de ce qu'il peut être, on va dire. Sauf que nous, on ne sait pas ce qu'il est, lui-même ne sait pas, et on doit quand même l'aider à le devenir. Donc c'est ça qui est chaud, tu vois. Moi, je trouve que ça laisse un flou immense.
Mais ça, on est dans le flou avec beaucoup de choses, hein, au niveau de la parentalité en France. Hein, donc ça n'est qu'un petit flou en plus de tout le flou. C'est marrant parce que tu vois, c'est un débat, ce débat des. Alors pas au niveau du genre, hein, mais au niveau des étiquettes en règle générale, de l'enfant est comme ci, l'enfant est comme ça. C'est un débat que j'ai jamais entendu en Suède. J'ai jamais entendu des parents se poser des questions là-dessus, en fait. Je pense qu'encore une fois, c'est symptomatique de notre vision délétère où on a envie d'en sortir, on a envie de sortir de cette façon de faire qui était jusque-là totalement inappropriée. Et donc du coup, on va tout décortiquer, quoi. On va tout décortiquer. Qu'est-ce qui va pas? Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça. Et en fait, on voit pas que c'est plus global. C'est une posture. C'est une façon de concevoir l'autre. Et ensuite, il y a plein de comportements qui vont rester parce qu'il y a des comportements humains. Mais il y a des. C'est compliqué, tu vois. J'ai du mal moi-même à l'expliquer vraiment, quoi, parce que je comprends qu'il faut le vivre et il faut le côtoyer pour le comprendre. J'ai vu plein de parents suédois dire à leurs enfants qu'ils étaient allez viens 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 par là petit bulldozer ou ce genre de choses, quoi. Je voilà, je mets un petit je mets un peut-être un petit point d'interrogation là-dessus, quoi. Je pense qu'on se prend beaucoup 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 la tête parce qu'on veut à tout prix sortir de ça, parce qu'on veut à tout prix autre chose. Mais des fois, on a tendance à passer à côté de l'essentiel de ce que c'est que cette autre chose, quoi. Mais encore une fois, j'en veux pas aux gens. Il n'y a pas les modèles, il n'y a pas la société qui suit, donc c'est très compliqué. Mais se mettre un gendarme dans la bouche avant de parler, quoi. Je pense pas que ça soit. C'est pas en réprimant nos façons naturelles, spontanées et affectueuses de parler à nos enfants non plus qu'on s'en sortira mieux, je pense, quoi. Mais bon, c'est ma façon de voir les choses, encore une fois, avec ce que j'ai vécu là-bas. Hein. Mais il y a beaucoup de débats ici qui n'existent pas là-bas, en fait. Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Il n'y a pas que les étiquettes, d'ailleurs, il y a d'autres choses. Hein. Mais je pense que c'est symptomatique de notre overdose de violence éducative en France. Du coup, on veut tout faire valser, quoi. On veut tout faire valser, quoi.
Oui, et tu l'as déjà dit à plusieurs reprises, hein, c'est un problème de société et de violence dans la société. C'est aussi, je pense, ce qui fait que beaucoup de parents veulent en sortir. En tout cas, ce qui est rassurant dans ce qu'on se dit aussi, c'est que on a le droit de se dire, même si on est conscient de ce qui se passe et des conséquences, que voilà, je suis pas là pour être parfait ou
Non
parfaite.
mais déjà d'une, ouais, complètement. Déjà, t'es pas là pour être parfait, puis t'es pas un robot. Enfin, genre, si tu te mets à ton côté comme un robot dans la relation avec ton enfant, là, tu vas créer des problèmes chez ton enfant, quoi. Parce qu'encore une fois, ton enfant, il a besoin que toi, t'aies confiance en toi pour avoir confiance en lui. Si t'es là à te dire moins de petits mots que tu vas prononcer, oh là là, est-ce que ça c'est un mot que je peux dire? Est-ce que ça c'est une formulation que je peux utiliser? Tu te déprécies totalement en tant que parent, en tant que personne, en tant que tout, en tant que voilà, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir coupable de tout, tu vas te sentir coupable d'exister, à la limite. Et après ça, tu peux pas amener une plénitude à ton enfant, puisque tu l'auras pas toi-même. Donc du coup, c'est aussi ça, quoi. C'est qu'on est là, il faut qu'on se maintienne, nous, en bonne santé mentale et émotionnelle pour le bien de nos enfants, quoi.
Je reviens sur ce que tu disais sur les étiquettes de genre qui, visiblement, n'existent pas en Suède. Et ça, c'est chouette.
Oui, ça, c'est autre chose.
C'est
le gros tabou de commencer à... Ouais, ça, par contre, ouais, c'est sûr.
Et je reviens donc sur la deuxième partie de ma question, qui était de savoir si le modèle suédois impose des différences de genre aux enfants qu'on peut trouver en France, notamment au niveau, tu vois, des jouets. Est-ce qu'on peut trouver des jouets pour filles et d'autres pour garçons?
Est-ce qu'il y a des différences de genre dans la société? Oui, je pense que dans toutes les sociétés du monde, même dans la société la plus paritaire du monde, qui est la Suède, dans toutes les sociétés, on a quand même des progrès à faire. Oui, il y en a. Mais pas du tout dans la même proportion qu'en France. Un enfant de sexe masculin qui va jouer à la poupée, ça ne dérange personne. Il n'y a personne qui va se poser une quelconque question à ce niveau-là. Pareil pour une petite fille qui voudrait jouer à des jeux de garçons, des jeux de voiture, de bricolage. Non, évidemment, elle peut tout à fait jouer à ça. Ça n'existe pas comme façon de penser les choses, quoi. Non, maintenant, ça va plus être de se demander est-ce que mon enfant de 4 ans, qui est un garçon et qui adore porter la robe de sa sœur, est-ce qu'il peut aller comme ça à l'école? Ça, c'est une question de société en Suède. La plupart des gens vont dire oui, tout à fait, c'est un vêtement. Donc un vêtement, c'est un vêtement, puis les robes, c'est très pratique, ça respire bien, tout ça, donc pourquoi pas. Donc tu vas souvent voir des petits garçons qui vont en robe ou en jupe à l'école, c'est commun, c'est presque banal, quoi. Et puis, t'as quand même aussi une petite partie de la population qui va avoir un petit peu peur du regard de l'autre, qui va avoir peur que l'enfant se fasse embêter par les autres enfants qui comprendront pas, et qui donc, du coup, plus par protection que par total refus, vont dire « Ouais, non, quand même, il va peut-être mettre un pantalon, quoi. » Mais on n'en est plus là, quoi, dans la réflexion, on n'en est pas au jouet, quoi. Ça, c'est fini, quoi. On n'en est pas non plus à la coupe de cheveux, tu vois. En Suède, tu coupes pas les cheveux de ton enfant sans son consentement, quoi. Tu vois, ça se fait pas. Enfin, c'est-à-dire que si t'es parent et que tu décides que ton petit garçon, il a les cheveux longs et que t'as envie d'un coup qu'il soit court et que le petit garçon, lui, veut garder les cheveux longs, non, là, les gens, ils vont te dire, non, mais ça va pas. C'est son corps. C'est son corps, c'est son droit. S'il a envie d'avoir les cheveux longs, il a les cheveux longs, quoi. Et sur beaucoup de choses, de la même manière que si tu t'amuses à aller percer les oreilles de ta petite fille qui a un an, deux ans, trois ans, parce que toi, tu trouves ça joli, non, là, on va te dire que c'est de la maltraitance. Tu touches pas au corps de l'enfant pour ton propre intérêt personnel. C'est pas possible, quoi. Sauf en cas de nécessité médicale. Donc le consentement de l'enfant, il est très fort, forcément. Enfin, ça va forcément dans la société paritaire qu'ils sont. Après, il y a aussi beaucoup de... Il y a des progrès, hein, encore faisables. De toute façon, il y a des progrès dans tout. Sinon, on s'ennuierait quand même pas mal dans nos sociétés. Ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Les enfants comme les adultes, hein, d'ailleurs, avec les papas qui s'occupent de leurs enfants. C'est différent. Là, pour le coup, on est vraiment au Moyen-Âge, quoi. Quand tu reviens en France et que tu vois comment un petit garçon dans un magasin doit absolument choisir un objet bleu. Parce que, je sais pas, on a décidé que, je sais pas, le bleu... C'est incohérent, c'est bizarre, comme beaucoup de choses, d'ailleurs. Donc on peut pas toujours tout voir non plus en noir, parce que sinon c'est compliqué. Mais c'est dommage, quoi, encore une fois, de pas avancer plus que ça. Après, oui, t'as des magasins en Suède où t'as un rayon garçon, un rayon fille. Ça existe. Généralement, ça fait beaucoup débat, ça embête les gens. Mais il y a aussi des enseignes de vêtements qui sont très connues, qui seraient un petit peu l'équivalent de petits bateaux en France, qui sont totalement unisexes et qui fonctionnent extrêmement bien. Donc il y a vraiment y a un débat de société. Il y a aussi depuis quelques années maintenant, il y a un pronom neutre en Suède qui dit ni il ni elle, mais qui est un pronom neutre. C'est un pronom qui a fait beaucoup débat aussi, mais maintenant il est là, quoi. Donc ils ont un gros train d'avance là-dessus, quoi.
Bah, c'est quand même vraiment chouette d'entendre ça.
J'imagine, ouais, surtout pour toi, dans Papa Driaka, c'est quand même... Non, mais c'est sûr, non, mais c'est possible. Après, ça n'empêchera jamais les débats, quoi, parce qu'ils en sont encore à débattre sur beaucoup de choses. De toute façon, les débats, c'est ce qui fait la société, l'évolution, et je pense que l'humain, fondamentalement, a besoin de se confronter à d'autres réalités pour évoluer, quoi.
Eh bien, Marion, cette interview touche à sa fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, aux parents en devenir, à ceux qui ont été parents, à ceux qui s'intéressent à la parentalité, notamment sur le sujet des violences éducatives ordinaires, et sur tous les sujets qu'on a pu évoquer. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là directement?
Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire de plus que je leur ai pas encore dit? Rien de très nouveau, quoi, encore une fois, c'est... Soyez quand même indulgents envers vous-même, je pense que ça c'est important, quoi. La confiance que vous voulez donner à vos enfants, la sécurité que vous voulez donner à vos enfants, l'épanouissement que vous voulez donner à vos enfants, il faut déjà que vous l'ayez. Et ça c'est compliqué, c'est tout un cheminement pour certaines personnes, on n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes faiblesses, encore une fois on est différents, mais c'est en étant... soi-même, je pense, sécure, bien dans sa vie, et plein d'enthousiasme, de projets et de joie, que c'est ça, pour moi, qui sera le plus beau modèle, en fait, pour les enfants, plutôt que tout ce qu'on peut trouver dans les livres, quoi.
Merci beaucoup, Marion, pour ce très bon moment et cette interview.
Merci à toi.
Et à bientôt. Et c'est la fin de cette interview. Je remercie chaleureusement Marion pour m'avoir accordé du temps et avoir pu échanger sur tous ces sujets. Elle est aujourd'hui en train de se battre pour ses droits sur son documentaire. Si vous souhaitez l'aider et contribuer, je vous laisse un lien dans la description du podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Facebook et sur Instagram et sur blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.